Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui du procès des dirigeants de la banque Barclays qui s'est ouvert il y a quelques jours en Grande-Bretagne.
Absolument. Mercredi dernier, s'est ouvert le procès des principaux responsables de la banque anglaise afin de juger leurs agissements au moment de la crise financière de 2008. Ce sont ainsi l'ancien directeur général de la banque, le directeur de la banque au Moyen-Orient et quelques autres pontes de la City qui ont été mis en accusation par la justice britannique. Surnommé procès de la finance par les tabloïds anglais, cette mise en accusation fait suite à plus de 5 ans d'enquête de la part du Serious Fraud Office, équivalent britannique de notre parquet financier, un procès inédit qui devrait durer 4 à 6 mois pour juger ces banquiers de complicité de fraude et d'assistance financière illégale.
Tout commence en octobre 2008 lorsque le régulateur financier donne 8 mois à la banque pour lever 10 milliards de livres.
Oui, pour ainsi dire, mission impossible pour les banquiers de Sa Majesté alors que Lehman Brothers vient de s'effondrer et que la panique commence à saisir les marchés financiers. Il est donc nécessaire d'agir et vite. D'autant que le pouvoir britannique n'a pas ménagé ses effets en menaçant horreur suprême de nationaliser la banque en cas de défaillance de sa part. Une nationalisation qui aurait signifié de sérieuses limitations à leur pouvoir, ainsi que la fin de leurs opulents bonus. Et le pouvoir ne bluffe pas. Mi-octobre, le Premier ministre Gordon Brown a annoncé la nationalisation de Halifax Bank of Scotland et de la Royal Bank of Scotland qui avaient péché par excès et sombré la première. Les Golden Boys de Barclays vont néanmoins trouver une solution en se tournant vers les monarchies du Golfe dont on connaît la prodigalité proverbiale. En réalité, ce sont les derniers acteurs qui acceptent de prêter d'aussi importantes sommes en pleine tempête financière.
C'est ainsi le Qatar qui a fourni près du tiers des 11 milliards de livres rassemblés par la banque.
Exactement, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que cette opération n'a pas été gratuite. Conscient d'être quasiment les seuls à pouvoir renflouer la banque, les Qataris ont pu exiger des contreparties tout à fait vertigineuses. Ainsi, le 12 octobre 2008, le tout-puissant patron des affaires moyen-orientales de la banque, Anthony Jenkins, reçoit dans sa demeure de Mayfair une délégation de haut vol venue expressément du Qatar pour discuter des termes de l'accord. Entre la poire et le fromage, la question des compensations dévolues aux généreux donateurs est abordée. Les banquiers anglais proposent 120 millions de livres, les Qataris préféreraient 600 millions. Après d'âpres discussions, les envoyés du Golfe repartent avec une promesse de 322 millions de livres, somewhere in the middle, comme diraient nos amis d'outre-Manche.
Le problème, Arjuna, c'est que ces commissions ont été versées au détriment des autres investisseurs.
Mais oui, pris par la panique de voir leur institution tomber aux mains de l'État socialiste, les dirigeants de la banque se sont empressés de ficeler un accord dont il n'était pas certain aujourd'hui qu'il soit tout à fait légal. Ils élaborent ainsi une convention dite d'assistance-conseil qui leur permet de grassement rémunérer leurs investisseurs providentiels. Le Premier ministre du Qatar lui-même est remercié pour ses bons services par un généreux pourboire. Une commission que le Serious Fraud Office qualifie aujourd'hui d'occulte et qui pourrait bien coûter leur liberté à ses instigateurs. Ceux-ci risquent ainsi jusqu'à 10 ans de prison. Une première outre-Manche où aucun des protagonistes de la crise n'avait eu à rendre de compte devant la justice. On peut donc s'interroger sur le battage médiatique qui est fait autour de ce procès dit de la crise de 2008, qui ne concerne en réalité que des actions postérieures au déclenchement de celle-ci. Interroger aussi l'intérêt de braquer les projecteurs sur un tel événement alors que les responsables de la crise et de ses conséquences concrètes, pratiques sur la vie des gens courent toujours.